Il s'agit d'un produit sans frontières qui a traversé l'espace et le temps, qui a été adopté par toutes les nations et qui s'est façonné au gré des cultures. Vous l'aimez peut-être Margarita ou aux quatre fromages, et vous allez la découvrir dans un instant sous une autre facette. La pizza, un véritable cas d'école, un objet scientifique en tout cas qui permet d'étudier les processus de diffusion alimentaire, mais aussi la façon dont un mets peut devenir l'expression de changements culturels. La pizza aujourd'hui dans l'assiette de La Tête au Carré, avec vos messages et vos questions à nos invités que je vous présente dans un instant. Un grand pas en avant dans la structure interne des ordinateurs quantiques, et c'est à la une de la science aujourd'hui. Axel Villard, bonjour.
Oui, bonjour Mathieu. Une expérience unique menée dans le monde quantique et qui ouvre des perspectives très intéressantes. Une histoire du chat de Schrödinger revisité aussi. On vous explique tout dans un instant.
Stéphanie Texier est aux commandes de notre Tête au Carré, préparée aujourd'hui par Dylan Beiner.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Napolitaine à l'origine, on la retrouve aujourd'hui dans le monde entier. C'est donc la pizza dans un instant dans le dossier de l'émission avec mes invités. En duplex de Genève, Sylvie Sanchez, bonjour à vous.
Bonjour.
Et avec moi en studio à Paris, Claude Fischler, bonjour.
Bonjour.
Sylvie Sanchez, face à une pizza, on peut voir des tomates, du basilic ou de la mozzarella, bien sûr, mais aussi beaucoup de diversité culturelle. C'est ce qui vous a intéressé, vous, dans ce travail d'anthropologue ?
Effectivement, que ce soit à travers les recettes, les façons de manger la pizza, où on peut voir la spécificité de chaque pays malgré et de chaque groupe. Hein.
Ouais, et malgré la mondialisation justement de ce mets. Claude Fischler, qu'est-ce qui explique le succès justement dans le monde entier de la pizza, produit quand même italien par excellence ?
C'est son adaptabilité, sa souplesse, le fait que c'est une formule qu'on peut faire varier à l'infini. Puis je me souviens que Sylvie, quand elle travaillait à sa première version de ce manuscrit, avait beaucoup insisté sur la forme ronde, et elle avait raison. Oui. La pizza est ronde comme la table ronde, et l'avantage de la table ronde, c'est qu'on peut toujours rajouter un convive.
Oui.
Et la pizza, on peut la diviser pratiquement en autant de parts qu'on veut, ou alors on peut tout manger tout seul, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis.
Sylvie Sanchez, dont vous avez été le directeur de thèse, justement, Claude Fischler. On se retrouve dans un instant pour parler de la pizza et donc de sa plasticité, entre autres, avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr. Et à la une de la science aujourd'hui, une avancée importante dans le monde des futurs ordinateurs quantiques. Un niveau de complexité supplémentaire vient d'être franchi expérimentalement par une équipe franco-américaine de l'université Yale dans le Connecticut. Pour en parler, nous sommes justement au téléphone depuis les États-Unis avec vous, Michel Devoret. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous co-dirigez cette équipe, et puis en studio avec nous, Alexei Grimbaum. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes physicien et philosophe spécialiste du monde quantique. Michel Devoret, l'article que vous publiez avec votre équipe dans la revue Science, un titre qui nous intrigue puisque c'est un chat de Schrödinger vivant dans deux boîtes. Qu'ont à faire les chats avec la structure des ordinateurs quantiques de demain? Alors expliquez-nous pour qu'on comprenne bien.
Oui, alors le chat de Schrödinger, c'est une métaphore qui explique le principe de superposition. C'est le principe de superposition est un phénomène quantique qui est à la base des ordinateurs quantiques.
Et ce principe de superposition n'est pas le seul nouveauté de ce chat que vous avez décrit là. Il a une nouveauté supplémentaire.
Oui. Oui, donc le chat de Schrödinger, est un état où Schrödinger avait expliqué qu'un système quantique pouvait être dans un état à la fois, le chat pouvait être à la fois mort et vivant. C'était une métaphore pour expliquer que deux propriétés pouvaient être réalisées simultanément, quantiquement, même si elles étaient contradictoires, même si on ne pouvait jamais observer l'une ou l'autre simultanément.
Et là,
donc il a pris la vie et la mort du chat pour frapper le public. Alors, donc ce genre de chat a été déjà réalisé, par exemple dans le groupe de Serge Haroche et Jean-Michel Raymond à l'École normale supérieure, il y a une dizaine d'années, mais nous, dans notre expérience, on rajoute une nouvelle dimension au chat. Il est non seulement mort et vivant, mais dans deux endroits à la fois.
Oui. Alexis Grimbaum, il va falloir nous éclairer un peu, parce que mort et vivant à la fois, il se passe de drôles de choses dans le monde quantique quand même.
Oui, vous savez,
Pensez à l'année 1935. Einstein est aux États-Unis, il a fui l'Europe, il préfère parler allemand, il n'a pas beaucoup d'interlocuteurs qui parlent allemand, il écrit des lettres. Et c'est dans cette correspondance entre Einstein, Bohr, Schrödinger, les grands physiciens de l'époque, qu'on commence à comprendre l'étrangeté conceptuelle de la mécanique quantique. Et alors, dans cette étrangeté, il y a d'abord l'histoire de la superposition, et puis il y a une deuxième notion qu'introduit Schrödinger aussi à ce moment-là, et c'est toujours le même Schrödinger, c'est la notion d'intrication. Donc, c'est cette propriété où vous avez... Alors, vous achetez une pizza à emporter, on vous donne deux boîtes pour une seule pizza, vous aurez la première boîte, elle n'a rien, vous aurez la deuxième, elle n'a rien, mais si vous aurez les deux des deux mains à la fois, alors vous trouvez votre pizza. Vous voyez, c'est une propriété très étrange. Où est la pizza? Elle n'est ni dans la première, ni dans la deuxième, mais en quelque sorte, si vous arrivez à ouvrir les deux à la fois, faire une mesure conjointe, alors elle est là. Et ça, c'est la deuxième propriété que, dans ce travail, on a ajouté en simultané, en quelque sorte, en parallèle à la première. Et on a fait une étude des deux propriétés étranges à la fois.
Michel Devoret, vous prenez à votre compte cette image de la pizza?
Oui, oui, tout à fait.
Mais en termes plus pratiques, ce super chat que vous avez créé, c'est quoi exactement? C'est des particules? Décrivez-nous un tout petit peu l'expérience, simplement.
Oui, alors donc le chat est réalisé dans un oscillateur micro-ondes, hein, donc c'est un peu comme votre four à micro-ondes, mais en beaucoup plus petit. Et les deux états mort et vivant du chat, c'est deux valeurs du champ électrique opposées. C'est-à-dire que le champ électrique peut être à la fois, disons, vers le haut ou vers le bas dans cette petite cavité micro-ondes. En fait, là, dans l'expérience, il y a deux cavités micro-ondes, donc le chat peut être à la fois dans l'une ou l'autre des cavités. Donc, si on reprend l'image de la pizza...
Les deux boîtes.
Eh bien, une pizza, c'est un champ électrique pointant vers le haut, et pas de pizza, c'est un champ électrique pointant vers le bas.
Alexis Greenbaum, comment ces chats peuvent nous aider à faire des calculs?
Alors, c'est la première propriété étrange, cette superposition, justement, elle donne des possibilités en puissance de calculer plus vite, plus efficacement qu'un ordinateur que nous connaissons classiquement, un ordinateur que chacun peut acheter dans un magasin. Mais calculer plus efficacement, c'est bien, mais un ordinateur ne fait que calculer. Il y a aussi, par exemple, de la mémoire. Et dans la mémoire, alors, il faut bien stocker et de façon fiable les informations. Si vous mettez un octet 1 ou 0 dans la mémoire, il ne faut pas qu'il disparaisse, il ne faut pas qu'il s'efface. Et à ce moment-là, vous voulez par exemple deux doublés, comme quand vous faites des copies de vos clés, vous donnez une copie à votre mère ou à votre collègue, là, pour qu'elle garde au cas où.
Votre et donc, chat, là aussi, par exemple.
À votre chat, hein. Oui, ou votre pizza, si vous voulez. Bon, on va laisser les pizzas. Alors maintenant... Dans l'ordinateur quantique, il faut faire la même chose. Il faut un peu de redondance, il faut créer des copies pour que l'information ne soit pas perdue. Et donc, on va utiliser la première propriété étrange, la superposition, pour gagner en puissance de calcul. Et la deuxième propriété étrange, on l'espère, cette intrication quantique, sera utilisable pour faire un peu de redondance pour que l'information ne s'efface pas à cause des erreurs.
Maintenant qu'on a ces deux propriétés, Michel Devoret, qu'est-ce qui manque pour vraiment arriver à les faire, ces ordinateurs quantiques?
Eh bien, le graal des recherches sur l'ordinateur quantique actuellement, c'est la réalisation des codes correcteurs d'erreurs quantiques. C'est justement, comme le dit votre invité, pour arriver à battre la décohérence, cette tendance des systèmes quantiques à effacer rapidement les superpositions. Donc, effectivement, si vous réalisez des états intriqués, eh bien, vous allez pouvoir combattre cette décohérence, éventuellement faire qu'elle n'existe plus. Donc, notre travail, c'est un pas, justement, très important pour réaliser cette correction d'erreur quantique sans laquelle il n'y a pas d'ordinateur quantique.
Mais on y est vraiment à l'ordinateur quantique? On va y arriver, en tout cas, prochainement? On en est encore loin, Michel Devoret?
Oh, c'est une affaire de quelques années. Ça dépend évidemment de la taille de l'ordinateur que vous imaginez, mais certainement cette correction d'erreur quantique qui permet de déboucher rapidement sur l'ordinateur quantique, c'est juste une affaire de quelques années. Donc l'ordinateur quantique, c'est pas pour dans des décennies, c'est pour bientôt.
Alexei Greenbaum.
Et puis, il ne faut pas oublier une autre application du calcul quantique, la cryptographie quantique, qui, elle, est déjà opérationnelle. Elle a déjà des technologies tout à fait vraies, tout à fait réelles, qui utilisent cette puissance quantique.
Excel.
Michel Devoré, là, vous titrez votre article avec le chat de Schrödinger, mais est-ce que la métaphore est toujours bonne aujourd'hui, presque 100 ans après le mythe originel, j'ai envie de dire ?
Ah oui, c'est une métaphore excellente parce qu'elle permet justement de traduire l'étrangeté, enfin le côté paradoxal du principe de superposition, de ce phénomène de superposition en termes accessibles à tous. En fait, bon, il faut rester modeste. Nous, on réalise plutôt des chatons de Schrödinger que des vrais chats, mais...
C'est déjà pas mal. Oui. Ces chatons deviendront grands. Donc grâce à vous en tout cas, et grâce à cette avancée dans le monde futur des ordinateurs quantiques avec ce niveau de complexité supplémentaire et qui fait l'objet aussi, on a le sentiment d'une bataille internationale en tout cas, parce que chacun essaye de pouvoir découvrir le premier, ces états particuliers de la matière. Merci beaucoup en tout cas Michel Devoré, ainsi qu'à vous Alexei Greenbaum. Je signale d'ailleurs Alexei Greenbaum que vous êtes l'auteur de ce livre Mécanique des étreintes, publié aux éditions Les Belles Lettres. Merci Axel, à demain.
Merci, à demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique. La NASA vient de publier de nouvelles images de Pluton, prises en haute définition, clichés de la planète naine qui montre des plateaux vallonnés couverts de cratères, des plaines glacées, des zones montagneuses noires et accidentées, ainsi que des glaciers d'azote. Images époustouflantes, considérées comme les plus détaillées à ce jour, et qui ont été rassemblées dans une vidéo que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré. La dague retrouvée dans le sarcophage de Toutankhamon en 1925 a été forgée grâce à une météorite. Les prêtres égyptiens prétendaient que le fer utilisé pour la lame était d'origine céleste. Et ils n'ont jamais eu raison. Publié enfin dans la revue Meteorics and Planetary Science, les chercheurs ont utilisé la spectrométrie de fluorescence des rayons X, un procédé qui permet d'analyser la composition d'un objet sans le détériorer. Les conclusions sont sans appel. L'origine météorique du fer est confirmée par le fort pourcentage de nickel. La dague âgée de 3300 ans est actuellement exposée au musée du Caire. Et puis une éponge aperçue dans les eaux du nord d'Hawaï pourrait être le plus vieil animal vivant découvert à ce jour. Créature découverte par les scientifiques à plus de 2000 mètres de profondeur. Elle mesure 3,5 mètres de long. C'est la plus grande de son espèce. Étant donné un développement très lent chez cet animal, le spécimen pourrait avoir plusieurs milliers d'années. Les scientifiques ont filmé cette éponge et la vidéo est également à retrouver sur la page Facebook de l'émission. Allez, une sociologie de la pizza dans un instant. C'est notre dossier avec vos messages sur franceinter.fr. Second's key, you give me your sign, oh, you're right aside, can't.
L'investisseur devait venir jeudi, pas aujourd'hui.
Oh.
Il faut que j'y aille.
Papa nous abandonne ?
Oh, ça veut dire qu'il nous aime plus, c'est trop triste. Ça nous fera du bien de pleurer.
Quoi ?
Joa, qu'est-ce que tu fais ?
Rien, attendez une seconde. Je viens de m'apercevoir que Riley n'a pas déjeuné ! Soupir !
Tu sais, j'ai vu une petite pizzeria dans le coin. Tu veux pas qu'on l'essaie ?
Mais oui, j'adore les pizzas.
Pizza ?
Ouais, qu'est-ce que c'est ça ?
Non mais c'est quoi ce truc ?
Des brocolis dans de la pizza.
Ok, je démissionne.
Quoi ? Non mais attends, c'est sérieux là ? T'appelles ça de la pizza toi ? Tu sais d'où on vient ? Tu vois, je t'en colline.
Voilà, extrait de Vice Versa, ce film, donc petit clin d'œil à la pizza, objet de science, qui l'eût cru hein, cet après-midi dans la tête au carré. Mes invités pour en parler en duplex des studios de la radio suisse romande à Genève, Sylvie Sanchez, vous êtes anthropologue et chercheur associé CNRS à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. Et puis à mes côtés en studio, Claude Fischler, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de l'alimentation. Les auditeurs nous rejoignent donc pour parler de la pizza sur franceinter.fr. Et sur le mot-clé, l'attaque. Sylvie Sanchez, on s'est rencontrés il y a 9 ans à ce même micro. C'était au cours de la première saison de La Tête au Carré, je m'en souviens très très bien, parce qu'on était surpris aussi de pouvoir consacrer une émission entière à la pizza. Presque 10 ans plus tard, vous rééditez votre ouvrage, Pizza, Culture et Mondialisation, c'est chez Biblis. Est-ce que la pizza a bien confirmé vos observations ? Claude Fischler, tout à l'heure, parlait de la plasticité de cet aliment.
Ah ben écoutez, oui, il y a la plasticité, mais la première chose à dire, c'est que peut-être il y a 9 ans, on parlait de diffusion transculturelle. Et puis vous avez évoqué la NASA dans vos informations. Vous savez que la NASA est en train de mettre au point, grâce à une imprimante 3D, une pizza margherita pour ses astronautes
oui, hein,
qui
vrai,
vont partir à la conquête de la planète Mars. Donc on est dans l'intersidéral. La pizza continue d'avancer. Hein.
C'est ça. Elle a conquis tous les territoires parce qu'il restait encore des petits bastions imprenables dans des régions d'Asie qui étaient jusque-là oui, privées de la pizza. Et hop, tout est tombé. Hein, on en mange partout maintenant.
Effectivement.
Est-ce qu'on peut faire une carte fromage sur une imprimante 3D ?
Question de Claude Fischler.
Pour l'instant, c'est assez expérimental, mais ils mettent un petit peu de fromage et disons qu'à l'œil, ça n'a pas l'air forcément ragoûtant, mais ils avancent.
Voilà, et puis dans l'espace, on est un petit peu moins quand même désireux de manger des choses trop raffinées. On verra ce qui se passe donc avec cette imprimante 3D. Claude Fischler, la pizza, c'est un cas d'école intéressant dans l'étude justement des modes d'alimentation.
Bah oui, parce que le travail de Sylvie Sanchez l'a illustré. C'est au départ de Naples. On suit des populations, des groupes différents et on voit ce que devient la pizza et c'est différent selon l'environnement social, selon les groupes ethniques qui sont présents, selon l'organisation sociale et encore une fois, c'est cette espèce d'extraordinaire plasticité.
Ouais. C'est Sylvie Sanchez, oui, c'est ça. C'est-à-dire que la pizza est capable d'épouser toutes les cultures, c'est ce que vous montrez, mais sans jamais perdre son identité de pizza. Ça reste toujours une pizza.
Tout à fait, et ça c'est ce qui la distingue en fait de tous les autres mets. Elle évolue, donc Claude parlait du contexte, etc. Elle arrive à s'ajuster en fait chaque fois à répondre à des besoins particuliers, que ça soit une époque, l'expression d'une identité, les garnitures disponibles. Enfin, il y a une plasticité totale culinaire, contextuelle, etc. Voilà, c'est ce qu'on dit, ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le mystère de la pizza, parce qu'on n'a pas forcément non plus la réponse complète.
Ouais. C'est un cas unique dans le domaine alimentaire, Claude Fischler. On peut retrouver d'autres aliments avec à peu près les mêmes profils plastiques.
Oui, il doit y en avoir d'autres. On peut imaginer que les crêpes ou les galettes, mais ça n'atteint pas l'universalité. On sait aussi que le hamburger connaît des destins de plus en plus, comme ça, des variations de plus en plus importantes. Mais enfin, je crois quand même que la pizza, c'est assez unique. Et je me souviens surtout qu'au début de son travail, Sylvie se posait une question qui me paraissait absolument fascinante et qui l'est vraiment. C'est, en gros, on peut la résumer de la façon suivante, c'est si vous mettez du saumon et de la crème fraîche sur une pizza, est-ce que c'est toujours une pizza ?
Ben apparemment oui, hein, Sylvie Sanchez.
On la reconnaît, oui, il y a quelques éléments fondamentaux. Enfin, on saura toujours dire si c'est une pizza ou une tarte, si... voilà.
Claude Fischler, la pizza ambitionne de rejoindre la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité et apparemment les soutiens de cette candidature ne viennent pas que de l'Italie, ça vient absolument partout dans le monde, quasiment 1 million de signatures de soutien. C'est-à-dire que voilà, tout le monde se reconnaît aussi dans la pizza.
Il va se poser la question, j'ai pas suivi cette candidature, mais est-ce qu'elle vient de Naples? Est-ce que c'est la pizza authentique?
Elle vient de l'Italie, oui.
Non,
parce que... En réaction à McDo.
Ah oui, c'est ça. Bon, c'est un peu toujours ça. Mais c'est cette histoire du combat entre la pizza et McDo, qui n'est plus d'ailleurs tellement visible. Moi, je me souviens qu'il y a une quinzaine d'années encore, la pizza n'avait pas encore acquis le statut très très négatif de fast-food. Mmh. Et quand on comparait la perception, l'image du hamburger et celle de la pizza, il y avait quelque chose comme une espèce de frugalité méditerranéenne, une gourmandise italienne, etc., qui s'associait à la pizza, tandis qu'évidemment le hamburger, c'était tous les travers et tous les défauts du fast-food américain. Et puis, il y a eu, probablement parce que justement cette pizza s'est industrialisée finalement assez facilement, et la ligne qui arrêtait le développement d'une certaine marque de pizza fast-food a dû bouger. Il faut que Sylvie nous dise exactement ce qu'il en est d'ailleurs. Ça s'est étendu et progressivement, finalement, on est arrivé à une sorte de désitalianisation de la pizza, comme elle est déjà acquise aux États-Unis, où il y a très longtemps que c'est l'aliment favori des jeunes Américains et qu'ils ont même pas oublié, ils n'ont jamais pensé que ça puisse être spécifiquement italien. Donc peut-être qu'il y a ce phénomène qui est en train de se passer sous nos yeux et la tentative de réauthentifier la pizza est une réaction contre ça. Il y a déjà eu des tentatives d'ailleurs qui se sont heurtées à un violent échec aux États-Unis. Vous savez qu'il y a eu un comité pour l'authentique pizza qui a débarqué à New York il y a une vingtaine d'années, et le New York Times a titré « The Pizza Police is here
». Sylvie Sanchez, c'est vrai que c'est très important cette candidature auprès de l'UNESCO pour les Italiens, parce que c'est un élément central de l'identité du pays, hein.
Alors oui, mais il faut quand même rappeler que c'est quelque chose d'assez récent, la pizza qui incarne l'identité italienne en Italie.
Ouais.
Je sais pas, juste ça, c'est la pizza est devenue une espèce de fast-food national en Italie à peu près à la même époque où elle a atteint sa plus grande popularité en France. La pizza, elle est très longtemps restée quelque chose de napolitain, y compris en Italie.
Au nord de l'Italie, par exemple, on n'a pas mangé pizza pendant très très longtemps, jusqu'à il y a quoi, les années 70-80 à peu près?
Alors dans les années 60, elle arrive à Milan, mais il y a aussi l'immigration napolitaine pauvre qui arrive dans le nord. Et c'est pas vraiment grâce à eux que la pizza se popularise, c'est plutôt l'époque de l'American Way of Life, etc. Donc les jeunes qui veulent sortir le soir, enfin on connaît bien tout ça, et donc ils vont aller chercher ce mets qui est peu cher, etc. Mais voilà, c'est relativement récent et il a fallu finalement ce détour par les États-Unis pour que, à la fois en Italie, en France, les gens s'agitent et disent que, mais non, la pizza, c'est à eux, ils ont leur modèle à eux, etc.
Et en réaction, comme vous le disiez justement, au hamburger, alors il faudra attendre 2017 pour voir si cette inscription auprès de l'UNESCO fonctionne ou pas.
Oui, alors c'est pas en réaction au hamburger, c'est en réaction à ce que prétend faire un McDonald's, c'est-à-dire enfin le hamburger, pardon. L'idée, c'est que comme ça fait au moins une quinzaine d'années que l'enseigne de hamburger qu'on connaît tous essaie de proposer aux Italiens des pizzas. Donc il y a eu la pizza Mia et la Mac Pizza qui ont été des flops abominables et comme ils n'y arrivent pas, là ils ont initié un nouvel épisode avec un spot publicitaire où ils montrent un enfant qui est avec ses parents dans une pizzeria qui fait la tête parce que qu'est-ce qu'il veut ce petit, donc petit italien, il veut un Happy Meal. Et donc la séquence suivante, on voit le petit italien qui est effectivement dans l'enseigne de burger et qui est très content. Donc les Italiens se sont sentis complètement insultés par cette publicité et ça a déclenché ou nourri en tout cas ce dépôt de dossier à l'UNESCO.
Voilà.
Maintenant, je veux juste ajouter un mot sur ce dossier. Ce qui me paraît intéressant, c'est que là, ce qui est défendu, c'est l'art du pizzaiolo. Ça n'est même plus la pizza, c'est l'art du pizzaiolo. Pour la pizza napolitaine, on avait déjà eu la demande d'appellation protégée déposée par la mairie de Naples. Et là, on passe au geste. Donc, on veut vraiment accéder à l'immortalité, à l'immatérialité d'une humanité commune. Enfin, c'est voilà, on est au-delà de toute cette industrie, de toute cette cacophonie.
Alors, c'est justement, ça, Sylvie Sanchez, écoutons la voix d'un pizzaiolo napolitain.
Ah.
C'est comme ça tous les jours. La pizza napolitaine est considérée comme un plat incontournable par tous ceux qui se baladent dans le vieux centre de Naples. C'est rapide, coloré. C'est un peu comme prendre un café à l'improviste. On dit, allez, on se fait une pizza. La pizza survit aux guerres, aux calamités. C'est un monument de la ville de Naples.
Voilà, et c'est le geste hein, du pizzaiolo.
Oui, c'est le savoir-faire artisanal contre l'industrialisation venue d'outre-Atlantique. Et d'ailleurs, c'est une histoire qui commence à outre-Atlantique, puisque les pizzerias de New York ont fini par essaimer, mais pas du tout par l'effet des Italiens, ou pas seulement. Ce sont surtout des tenanciers de coffee shop qui étaient des Grecs, qui, à Chicago en particulier, ont commencé à réfléchir à comment se faire pour se débarrasser du geste du pizzaiolo, c'est-à-dire comment faire pour avoir plus de rendement, pouvoir satisfaire plus de clients plus rapidement. Donc on a fait la pizza à l'avance, dans des moules profonds, et c'est ce qui a donné naissance à ce qui est censé être aujourd'hui une spécialité de Chicago, c'est-à-dire la deep pan pizza, ou je ne sais plus comment on l'appelle.
On y revient dans un instant, on écoutera un document à ce sujet d'Imd Up sur France Inter et puis bien sûr vos messages sur le site de l'émission.
Matin et soir, soir et matin. Je change de wagon, je change de train, sans entrain, pour assurer mon train, train quotidien. Matin et soir, soir et matin, je change de wagon, je change de train. Y'a de tout dans ce train, des gens qui dorment, des chiens qui pissent, des femmes enceintes, des enfants bruyants. Le matin c'est bondé, le soir c'est blindé, ça pue, ça chante, ça se lamente, tout ça se vend d'avoir une petite vie, oui monsieur, d'avoir une vie monsieur. Parfois les femmes se maquillent, se parfument parce qu'elles sont moches et qu'elles puent parfois des mecs enivrés, défoncés en mer les passagers, mais c'est jamais bien méchant dans le TER centre. Le trajet, je le connais par cœur. De la campagne à Paname, dans les banlieues, les trams s'ébranlent dans le froid, sous un soleil de plomb. À travers les nuages et la pluie dans le brouillard hivernal, on est serré. Tu suffoques des minutes entières et quand le train s'arrête et que les portes glissent, les rails se mettent à grincer, à gémir de douleur, elles crissent, elles frémissent. Les banquettes sont chauffées par des culs différents, les regards se croisent indifférents, les paupières se ferment fatiguées, éreintées d'une journée épuisante. Les chances s'effilent en building, les grands arbres s'enterrent et se changent en parking. C'est tout un monde que tu traverses quand tu prends tes versants. Soir, soir et matin, change de wagon, change de train, sans entrain, pour assurer mon train, train quotidien. Matin et soir, soir et matin, change de wagon, change de train, Y'a de tout dans ce train. Des gens qui pensent, des gens qui pensent aux gens, des gens qui pensent aux gens qui pensent. Ceux-là sont un peu barrés quand on y pense. On voit des mecs qui décuvent d'une soirée au calme, on croise des jolies minettes tombées au bord des larmes. Y'a de tout, y'a une âme, un truc qu'on n'explique pas dans le TER centre. Dans le TER centre, y'a pas d'étiquette. On détruit les notions inculquées trop jeunes dans les têtes. C'est hétérogène, on se prend pas la tête. On n'a pas les mêmes gènes dans le TER centre. Les gens qui voyagent ne se parlent pas beaucoup, mais je crois bien qu'ils s'aiment quand même. En même temps, tu te sens proche de l'autre quand tu partages un retard d'une heure 57.
TER centre, team d'up.
La tête carrée. Sur France Inter.
Sylvie Sanchez, anthropologue, auteur de ce livre Pizza, culture et mondialisation aux éditions Biblis. Et puis Claude Fischler, sociologue et donc ancien directeur de thèse de Sylvie Sanchez, également avec nous aujourd'hui en studio. Il y a une question de Larry, Sylvie Sanchez, qui demande si la flammkuche est une pizza germanique.
Ah non, 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 pas
ah
du
bon
tout. Et d'ailleurs, même dans ce... Alors, elle partage initialement des usages qu'on avait aussi avec la pizza, comme par exemple, il y avait une préparation domestique de la pizza, où la pizza servait à utiliser les dernières braises du feu. Mais voilà, la flammkuche, elle ne se décline pas. Hein, il y a une ou deux recettes, sûrement que maintenant on en trouve une petite variation, parce qu'il y a des restaurants qui se spécialisent là-dedans, mais on n'a pas la même plasticité du tout.
Voilà.
Du tout,
hein. Toujours,
il ne faut pas oublier, il y a toujours un point essentiel avec la pizza, qu'elle soit notamment végétale ou carnée, on reconnaît toujours la pizza. On ne peut pas dire ça d'un burger, on ne peut pas dire ça de la flammkuche, etc.
Oui.
Par contre, la pizza a emprunté à la flammkuche sa base de crème, notamment, je ne sais pas si on en parlera, parce que le marqueur, la tomate, donc, qui est un marqueur de la cuisine méditerranéenne, ne passe pas, n'est pas appréciée partout et ne se diffuse pas aussi facilement que ça. Alors, la crème marche mieux.
Il y a toujours cette frontière entre le beurre et l'huile, alors, même si en France, on peut tracer d'ailleurs cette frontière. Hein.
Oui, entre le beurre et l'huile, ça a bougé quand même, hein, depuis, depuis cette ligne-là, Lucien Febvre, voilà.
Ouais.
Mais pour la pizza, on avait trouvé la ligne Nantes-Besançon.
C'est ça, hein, exactement, vous la voilà, citez dans votre ouvrage.
Qui était au nord l'implantation des chaînes américaines, et
c'est
puis
vrai.
Une frontière que les camions à pizza ne laissaient pas.
Voilà, alors. Je faisais allusion à ça tout à l'heure, Sylvie, est-ce que ça a bougé?
Oui.
Ça, c'est fini. Cette ligne.
C'est fini, cette ligne. Hein. Les choses sont beaucoup plus mêlées. Ceci dit, moi, je continue à observer de plus près le destin des camions. Alors, on va dire plutôt, moi, je constate là qu'avec la nouvelle vogue des food trucks, on a aussi des pizzaiolos qui s'improvisent dans la vente en food truck et qui est aussi une façon de revaloriser la profession, la pizza, etc.
Ouais.
À peine on parler d'une avancée du modèle de fast-food, mais quand même, on a aussi la version gastronomique ou soignée qui continue à, ici ou là, faire des petits. Hein.
Claude Fischler, la pizza, c'est aussi le succès plus général de la cuisine méditerranéenne, hein, qui s'est imposée dans le monde entier quand même. C'est un modèle qui séduit partout.
Enfin, la cuisine italienne d'abord, parce que
oui.
La cuisine la plus populaire de la planète, quand on interroge les gens, c'est quand même la cuisine italienne, de très très loin. C'est je veux dire, j'en ai vu en Malaisie, en Asie, en Amérique évidemment. Enfin, c'est bon. Alors, et la pizza, elle suit, elle accompagne la cuisine italienne, mais elle la dépasse aussi.
Qu'est-ce qui séduit autant? C'est l'aspect justement cuisine saine, entre guillemets, dont on vante les mérites pour la santé?
Ben, je crois que c'est la simplicité, le fait que... Il y a une certaine simplicité, puis il y a tout ce discours qui s'est construit, le discours sanitaire, le frugal et le gourmand en même temps, et puis la santé par là-dessus... Enfin, pas nécessairement dans cet ordre-là, les trois éléments. et finalement, je veux dire, il y a des gens qui s'intitulent cuisine méditerranéenne, qui se rebaptisent. J'ai vu récemment à New York un restaurant que je connaissais, qui était un restaurant turc, et qui maintenant se présente comme restaurant méditerranéen.
Voilà, c'est beaucoup plus vendeur, apparemment. En tout cas, l'origine de la pizza est bien napolitaine, comme nous le confirme justement cet extrait de La Fabrique de l'Histoire.
Alors, la pizza est un plat très, très ancien. Alors, est-elle napolitaine d'origine? Je ne le sais pas. Je suis, moi, napolitaine d'origine, donc j'aimerais bien que la pizza le soit aussi. Mais en fait, pizza, pita, pizza, on trouve ce mot qui est très ancien déjà dans des textes de Virgile ou d'Horace. Donc, je pense que la pizza est très, très ancienne et ça fait partie de l'histoire culinaire de l'homme. C'est-à-dire, l'homme a toujours aimé mélanger la farine avec de l'eau et ça, ça fait soit des pâtes, soit de la pizza. Bon, maintenant, c'est vrai qu'au XVIIe et XVIIIe siècle, à Naples, on en faisait beaucoup, on a mangé dans la rue, et puis les premières pizzerias sont nées. C'est pour ça que Naples revendique aujourd'hui la paternité ou la maternité de la pizza.
Sylvie Sanchez, aucun doute sur l'origine napolitaine de la pizza ?
Ah, effectivement, voilà, on a l'air de partager les mêmes références. Oui. En tout cas, le terme, parce qu'après, il faut savoir, voilà, de quoi on parle. La dame, dans l'extrait, rappelait qu'effectivement, initialement, on partage tous ces formes de galettes, etc. On trouve ça dans des textes de façon très, très ancienne. Maintenant, le terme pizza, lui, il apparaît bien en dialecte napolitain autour du XVIe siècle, en 1535 de mémoire. Et après, on a vraiment le fondement, l'appartenance à Naples à travers d'autres documents. Hein. Il y a des contes, il y a aussi les récits complètement extraordinaires, voilà, d'Alexandre Dumas avec le Coricolo. Il y a beaucoup de témoignages où on nous décrit la pizza dans la vie des Napolitains. Hein.
Qui était Margherita quand même ? Ah. Parce que là, on a affaire à une pizza politique quasiment. Hein.
Alors, ça fait...
Ah, nous avons un petit problème de liaison avec les studios de la radio Suisse
romande. De dire qu'est-ce
vous êtes qu'est-ce en ligne, qui... Sylvie Sanchez,
oui.
C'est bon.
Oui, oui, oui. Donc Margherita, voilà, Margherita, ça a été une façon en fait de revaloriser la pizza des Napolitains. Donc il faut imaginer une dizaine d'années après l'unification italienne, les Napolitains qui continuent à être une région récalcitrante hein, à l'unité italienne, reçoivent la visite d'Umberto Ier, donc qui vient faire une espèce d'opération de séduction de l'époque, et Umberto donc demande que son peuple adoré, c'est la formule consacrée, lui prépare une pizza en l'honneur de son épouse, la reine Margherita. Et donc, ils vont fabriquer cette pizza aux couleurs de la bannière italienne. Et à partir de cet épisode mythique, et c'est d'ailleurs la force des Napolitains, hein, ils ont su inventer des tas de mythes. Les Napolitains, c'est comme Marseille avec le football. Hein. Et donc, les Napolitains et la pizza, ils ont ce mythe de la pizza Margherita offerte à la reine, qui permet en fait, à la veille des expatriations, quand il y a à peu près 26 millions d'Italiens qui vont quitter l'Italie entre 1850 et 1900, donc au moment où les modèles vont s'exporter, notamment en France et aux États-Unis, donc à la veille de l'expatriation, il y a cette charge patriotique qui est contenue maintenant dans la pizza napolitaine, qui n'était jusque peu avant ça rien d'autre que le quotidien du petit peuple napolitain.
Et on retrouve d'ailleurs ce patriotisme donc dans la tomate, le basilic et la mozzarella en fait.
Tout à fait, voilà, j'oublie l'essentiel, excusez-moi.
Dans le drapeau italien.
Voilà.
Voilà, qu'on retrouve dans cette pizza. Jean-Michel nous envoie ce message. Il nous dit ceci, ce serait bien de ne pas oublier la pizza provençale, qui n'est pas un héritage de la pizza napolitaine, mais à son origine sur la terre provençale. Elle a ses caractéristiques qui la différencient de la napolitaine, ni meilleure ni moins bonne, mais certainement meilleure que tout ce qu'on trouve partout et qui porte le nom de pizza.
Alors avec une nuance, c'est que la pizza provençale, que j'ai bien étudiée là, dans l'enquête que j'avais menée, donc pour retrouver les origines en France, la pizza provençale, elle est née à Marseille, mais elle est née, en fait, c'est un syncrétisme. C'est-à-dire, initialement, à Marseille, les Napolitains faisaient la pizza bianca, celle donc sans tomate. Et puis, il a fallu comme ça un certain temps avant que la deuxième génération, on va dire, de migrants napolitains ajoute la tomate, mais qu'ils ont appelée pandelotte, du nom provençal. Et ils ont ajouté aussi les anchois. Les anchois, donc, c'était les Siciliens qui s'occupaient du commerce des anchois à Marseille. Donc, c'est vraiment une pizza syncrétique. Et Alors certes, elle est née à Marseille, elle est provençale, mais elle a quand même ses origines napolitaines, il ne faut pas leur retirer ça, voilà, ils se battent suffisamment.
Claude Fischler a un courriel de Nan qui nous dit ceci, le savoir-faire artisanal est repris par le marketing, j'ai même vu de la pizza au marteau dans la ville de Tolède, un marteau était fourni avec la pizza, quel sens à cet étalage de pizza sans goût, grosse pâte épaisse, nous dit Nan dans son message.
Oui, c'est la Chicago Pie Pizza, c'est ce qu'on lui reproche. Alors celle de Tolède, je ne la connais pas, mais manifestement apparemment, c'est la ville de l'acier, alors on la forge comme de l'acier. Quoi.
Elle lui ressemble beaucoup. Voilà, vous voyez, il y a plein de choses à raconter sur la pizza et c'est ce qu'on fait cet après-midi dans La Tête au Carré. Vous poursuivez bien sûr avec vos messages et vos questions et vos témoignages venus apparemment du monde entier. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. On se retrouve juste après Ex-Fan des 60s. Voici Jane Birkin sur France Inter. Bon après-midi.
Ex-Fan des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Où est l'ombre des shadows, des birds, des doors, des animals, des moves? Des blues séparés, McCartney, George Harrison et Ringo Starr et John Lennon. Ex-fan des 60s, petite baby doll. Comme tu dansais bien le rock and roll. Ex-fan des 60s, où sont tes années folles? Que sont devenues toutes tes idoles? Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem, Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly. Idem, Jimi Hendrix, Otis Redding, Janis Joplin, T-Rex, Elvis. Disparu Brian Jones, Jim Morrison, Eddie Cochran, Buddy Holly.
Jane Birkin à l'instant sur France Inter pour parler de la pizza. Mes invités Sylvie Sanchez et Claude Fischler et vos messages qui arrivent sur le site de l'émission. Et un homme qui s'appelle Jerry Lombardi qui prétend que son grand-père a été le premier à commercialiser la pizza à New York en 1905. Écoutez-le.
Mon grand-père est arrivé d'Italie en 1897. C'était un immigré. Et c'est là que tout a commencé. Il a été parrainé par quelqu'un qui l'a embauché comme commis dans l'épicerie de son restaurant de Spring Street. En 1905, cet homme a pris sa retraite et est rentré en Italie. Il a laissé le restaurant à mon grand-père en lui disant « Il est à toi, mais il faudra que tu me rachètes l'immeuble et la société. Tu m'enverras l'argent en Italie. » Et mon grand-père a été le premier aux États-Unis à demander une licence pour la vente des pizzas. Mon grand-père, qui était un génie, s'est dit « Je peux me faire beaucoup d'argent en vendant des pizzas aux ouvriers des usines de Soho. » Lorsque les gens partaient travailler le matin, mon grand-père mettait son étal devant son épicerie et criait « Pizza à 2 cents, bien emballée. Gardez-les au chaud sur les radiateurs de votre usine. »
Voilà, Claude Fischler. Ils sont nombreux à revendiquer à avoir été les premiers à vendre la pizza. Hein. Les Grecs, donc, à Chicago. Et puis là, cette famille.
Non, mais là, il faut demander à Sylvie. Mais je crois que ça colle assez bien avec les dates. La première pizzeria, enfin, les premières pizzerias à New York.
1905, hein, Sylvie
effectivement,
Sanchez.
Effectivement, oui. On accorde la primauté à Gennaro Lombardi, oui, pour les États-Unis.
C'est ça. Alors, ce qui est amusant et ce que vous racontez, hein, c'est que finalement, la pizza, une fois qu'elle est partie via l'immigration italienne, elle est arrivée en même temps en France et aux États-Unis avec deux destins, au fond, très différents. Hein.
Oui. Alors ça, voilà, c'est un peu plus compliqué à expliquer finalement, puisque ce sont les mêmes Napolitains qui arrivent à Marseille et qui arrivent aux États-Unis, enfin que j'ai sur lesquels je suis sur les que j'ai poursuivi enfin. Et donc l'idée, c'est le contexte d'intégration pour moi, le contexte politique et les modalités d'intégration, d'accès à la nationalité, les lois du travail qui peuvent expliquer finalement le destin différent qu'a eu la pizza dans les deux pays, avec donc des obligations à ajuster le mets ou à développer l'établissement, etc., qui ont été différentes de part et d'autre.
À partir de quand vraiment la pizza s'implante dans le monde entier ? C'est vraiment après la Seconde Guerre mondiale ?
Oui, c'est là où on parle des 30 glorieuses de la pizza. Oui. C'est-à-dire, en tout cas pour les deux pays que j'ai observés de plus près, c'est après la guerre, après la Deuxième Guerre, mais en même temps grâce à la guerre, que la pizza prend son essor, parce qu'il y a des développements techniques. Alors par technique, aux États-Unis, Claude a peine parlé donc du développement de la cuisson en moule, on se débarrasse du geste du pizzaiolo, etc. Aux États-Unis, donc on peut dire que c'est la pizza qui s'adapte, c'est l'outil qui, pardon, la pizza qui s'adapte à l'outil. Mmh. Et en France, inversement, on a le camion à pizza qui apparaît après la guerre, qui lui va adapter le four à homé, hein, le four à la pizza. Donc de part et d'autre, il y a des développements différents qui sont initiés, mais c'est après-guerre. Et pendant la guerre, c'est juste ça qu'il faut dire, en fait, la pizza perce de son côté trop ethnique. Mmh. En France, parce que...
Ah, nous avons un petit problème de coupure, voilà. Nous vous entendons à nouveau, Sylvie Sanchez.
Il n'y a plus que les pizzerias, donc dans le Marseille bombardé, il n'y a plus que les pizzerias qui peuvent encore fonctionner, mmh. parce qu'il y a des ruptures de nourriture, etc. Alors la pizza, ça reste quelque chose de très simple à faire. Donc là, les locaux et les Italiens peuvent se rencontrer. Et aux États-Unis, elle arrive à changer d'image, à perdre son côté trop ethnique, parce que les GIs la goûtent en Italie pendant les campagnes de la guerre, et quand ils reviennent aux États-Unis après-guerre, ils ont une image qu'on a l'habitude de qualifier de plus romantique de la pizza. Donc là, elle devient exotique et là, on peut commencer à la partager, etc., avec les locaux. Ouais.
Claude Fischler, il y a aussi le travail des femmes qui a favorisé, au fond, l'entrée de la pizza dans les maisons, avec la facilité de préparation. On a affaire à un plat tout prêt, c'est rapide, et ça participe à l'expansion.
Oui, c'est sûr que c'est... Puis surtout, c'est le menu consensuel, c'est-à-dire que quand les adolescents commencent à avoir des velléités d'autonomie, je me souviens de certains témoignages de mères qui disaient « Bon, vendredi, si je veux quand même les avoir, pizza surgelée, four... Ouais. »
C'est une façon de réunir les oisillons à la maison.
Ben oui, il y a une sorte de commensalité intégrée dans la pizza, c'est-à-dire partage du repas intégré... programmé dans comme je disais tout à l'heure, la forme ronde, les parts.
Ouais. Sauf qu'il y a différentes façons de la manger, de façon très individuelle, pour le coup, ou autour vraiment de la pizza, en la partageant, en la découpant. Oui.
Dans une étude qui était sur autre chose, mais où on avait des informations là-dessus, qui comparait des 800 femmes à Columbus, Ohio, et 800 femmes à Rennes, on trouvait qu'en moyenne, les Américaines avaient tendance assez souvent à manger dans leur voiture, beaucoup plus que les Françaises. Et à chaque fois qu'on demandait ce qu'elles mangeaient, c'était de la pizza. Ouais.
La pizza, un aliment anti-crise, en tout cas c'est ce que propose cet intervenant dans un documentaire Pizza à Naples.
La pizza, c'est un produit qui a deux avantages. D'abord, c'est de l'exotisme à bon compte. C'est l'illustration de la cuisine à l'italienne et ça se met dans une assiette assez facilement finalement. Deuxièmement, c'est que c'est un produit qui n'est pas très cher. Avec 2 ou 3 euros par personne, vous avez déjà une bonne portion de pizza. Et donc c'est vraiment le produit anti-crise par excellence.
La pizza est devenue un business juteux pour les industriels. Depuis longtemps reine des produits surgelés, elle investit de plus en plus le rayon frais traiteur.
Encore un élément qui explique son succès, Claude Fischler ?
Oui, mais enfin, il n'y a pas besoin d'assiette. Hein. C'est ça l'intérêt. C'est que dans tous ces aliments nomades, oui, il y a une base solide qui, en général, est un produit panifié. Et puis, une garniture, et on est dans ce schéma-là.
Alexandre nous envoie ce message, Sylvie Sanchez. Que serait la pizza sans le recours à la tomate ? Les tomates sont l'essence de la pizza. Il va falloir quand même reconnaître, dit-il, l'apport de ce magnifique continent de l'Amérique latine qui a donné au monde ce merveilleux fruit. Sachez remercier les dieux tutélaires de ce continent d'avoir créé la tomate.
Écoutez, je veux bien, mais néanmoins, même en Italie, la pizza, initialement, elle est à la tomate quand c'est la saison des tomates. Hein.
Et puis quand la tomate atteint l'Italie, c'est quand même pas avant la fin du XVIIIe siècle.
Tout à fait. Initialement, c'est même un poison, donc il faut. Enfin, c'est considéré comme un poison, donc il faut du temps. Oui. Et la dualité de la pizza, elle résiste même aujourd'hui. Finalement, il y avait plus de. On ne faisait plus la pizza bianca, donc celle sans tomate, la plus simple. Et puis, elle est réapparue quand même avec. À peine on a parlé de la tomate problématique qui a été remplacée par la crème. Donc là, on a une résurgence de la bianca, et je crois qu'il faut accepter de considérer que les deux ont une vie parallèle. Et je voulais ajouter aussi, à peine on parlait de l'effet de la pizza en fast-food qui se diffuse partout, je crois que de mon point de vue, le point le plus problématique finalement, et ça rejoint la tomate, c'est qu'il est extrêmement compliqué aujourd'hui de trouver une pizza, où qu'on soit, quel que soit le style et le lieu, de trouver une pizza sans fromage. Donc ce fromage, il sert à étouffer un peu la tomate, hein, le goût, la saveur de la tomate. Donc je sais pas si... pour moi, il n'y a pas de pizza sans tomate. C'est gustativement, c'est ça. Mais voilà, il y a une évolution là-dessus, je ne sais pas.
Ouais. Et la pizza qui est même considérée comme un légume aux États-Unis depuis 2011, quand même. Ça, c'est assez extraordinaire, Sylvie Sanchez.
Oui, dans les cantines. Enfin, c'est une astuce, une ruse, en fait, du commerce, en fait, des institutions du commerce. Mais effectivement, on pourrait même fanfaronner. Enfin, les Napolitains pourraient le reprendre à leur compte en disant que c'est même maintenant dans la catégorie très noble, qui n'a pas toujours été, des légumes.
C'est ça. Ils avaient essayé avec le ketchup, hein, je crois, avec le Fischler. Sous l'ère Reagan. Mais par contre, il n'y était pas parvenu, hein, quand même. Heureusement, ça avait été retoqué, parce que le ketchup, comme un légume, là, on croyait rêver, quand même. Une petite anecdote amusante, tiens, au sujet de Pizza Hut, puisqu'on parlait de la pizza et des fast-foods. Écoutez.
Au cours des années 50, les Américains ont définitivement adopté la pizza, qu'ils achetaient surtout à la pizzeria italienne de leur quartier.
La pizza est maintenant en vogue et la création d'une chaîne de pizzeria n'est qu'une question de temps. En 1958, Dan et Frank Carney, deux frères entrepreneurs, louent un petit édifice en briques dans la ville de Wichita, au Kansas, et y ouvrent une pizzeria.
Notre mère nous a prêté $600 pour partir en affaires. On a acheté des vieux fours et quelqu'un nous a donné une enseigne qui disait « pizza ». On avait de la place pour 3 lettres supplémentaires. Finalement, ma femme a pensé au nom de Pizza Hut. On l'a adopté.
Voilà, une question de place. Voilà, petite anecdote pour terminer. Juste, Sylvie Sanchez, très vite, qui sont les plus grands consommateurs de pizza au monde ? Est-ce que ce sont les Italiens ou pas ?
Ah, vous me collez, je crois pas.
Non, hein.
Les derniers chiffres que j'avais, c'est que les Français en mangeaient plus que les Italiens. Mais oui, Claude, sûrement les Américains.
Américains premier et Français deuxième et les Italiens derrière. Voilà.
Ah, c'était une devinette.
Absolument.
Vous me connaissez. Mais je ne sais pas tout sur la pizza.
En tout cas, beaucoup, comme on peut le découvrir dans ce livre Pizza, Culture et Mondialisation chez Biblis. Merci beaucoup à tous les deux et merci aux équipes de la radio suisse romande. Voilà un homme qui affiche le basilic, la mozzarella et la tomate au revers de son veston. Fabrice Drouel.
D'ailleurs, je pars à Rome juste après l'émission.
Ouais, donc,
je raconte ma vie, ça n'intéresse personne. Mais bon, le fumet de la pizza, je l'ai depuis ce matin.
Eh bien, écoutez, c'est formidable. De quoi vous parlez dans Affaires Sensibles ?
Alors,
on est très en retard, Fabrice.
Quentin Trintignant, c'était dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003. Et notre invité, ce sera Stéphane Boucher, auteur de l'ouvrage intitulé Bertrand Quentin, Marie Trintignant, l'amour à mort.
Allez, pub.